C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
L'éducation est peu abordée depuis le début de la campagne électorale par certains ricochets. Il y a des idées qui sont sur la table. On peut penser au fait de payer le matériel scolaire, de ne pas imposer des sommes additionnelles pour les programmes spécifiques. Et il y a Québec solidaire qui ramène l'idée d'arrêter de financer l'école privée, que ce soit 100% payé par les parents, et investir dans le système public. Alors, c'est un vieux débat qui revient de temps en temps, mais bon, puisqu'il est sur la table, est-ce qu'on doit arrêter de financer avec les taxes l'école privée? Luc?
Bien, écoute, si on fait ça, il faut qu'on finance beaucoup l'école publique pour qu'elle arrive au seuil de qualité de l'école privée. C'est pas dans l'autre sens. Il faut pas enlever de la qualité au privé parce qu'on n'a pas de qualité au public puis que le public n'est pas capable d'attirer. D'abord, à la base, il est vrai qu'il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Le Québec, 20 % d'étudiants à l'école secondaire privée. Dans le reste de l'Amérique du Nord, 5 % Dans les écoles primaires, c'est le contraire. Il y a plus d'écoles religieuses dans le reste du monde puis dans le reste de l'Amérique du Nord. Puis les écoles religieuses vont chercher un pourcentage dans le privé. Mais au secondaire, 20 % 5% dans le reste du pays. Et ça fait quoi, ça? Effectivement, ça écrème l'école publique. Fait que de dire, on va prendre tous ces bons parents-là puis tous ces bons élèves-là, puis on va les insérer dans un système, puis ils vont s'impliquer, puis ça va améliorer le système. L'idée de base est pas folle. Mais quand tu es individuellement devant la solution, le problème, et les gens m'ont beaucoup écrit parce que moi, j'ai raconté à plusieurs reprises que je suis allé à l'école privée, que ça a changé ma vie, que ça m'a sauvé dans mon cas parce que j'étais maudit tannant pas possible, puis que ça m'a donné de quelque chose pour investir mon énergie, des activités le soir, puis tout ça. Moi, je sortais de là. À la fin, en secondaire 5, ils m'ont donné la clé de l'école.
Ce qui aurait été impensable.
Ça me fait rire.
Non, parce que j'arrosais à patinoire, puis
oui.
J'étais là le matin, j'étais là le soir.
T'étais garçon très discipliné.
Non, discipliné, pas en tout.
Engagé.
Okay. Puis une fois, j'arrosais à patinoire, puis les tuyaux ont gelé, fait que je les ai mis dans la cafétéria pour qu'ils dégèlent. Puis la cafétéria était inondée au matin, mais ils m'ont quand même donné la clé de l'école.
L'intention était bonne.
Toujours est-il que ça m'a sauvé. Et donc, mon cœur est un peu avec l'école privée, mais je suis conscient que c'est tous les enfants qui devraient avoir accès à ça. C'est tous les élèves qui devraient avoir accès à ça. Puis ça coûterait pas si cher que ça. Une couple de centaines de millions. Une couple de centaines de millions pour élever le niveau des activités parascolaires. Pour élever. Puis quand les gens m'écrivent, ils m'écrivent tout le temps la même affaire. Ils me disent tout le temps, moi, c'est le bullying. Je veux pas que ma fille ou mon garçon, ils ont fait face à du bullying. Je ne veux pas. Point final. Je veux pas. J'arrête de réfléchir. Je veux pas. Ils ont raison.
Moi, je crois que c'est une vieille lubie de la gauche, en fait, de penser que le réseau public va gagner en qualité, en accessibilité si on fait disparaître le réseau privé. Tu l'as dit, Paul, Québec solidaire propose dans son programme de convertir progressivement les écoles privées vers les écoles publiques. Moi, je pense que QS rêve en couleur. Un, il n'y a aucune école privée qui va le souhaiter. Deuxièmement, Luc, tu parles d'anomalie. Moi, je parlerais davantage de complémentarité. D'ailleurs, j'invite Gabriel Nadeau-Dubois et son équipe à lire le rapport fait par... En 2015, il y a un groupe d'experts qui s'est réuni pour procéder à ce qu'on appelle la révision permanente des programmes. Ça fait bien technocratique là, comme expression. Mais ils sont arrivés à une conclusion. Et la conclusion, dans le fond, c'est celle que sur le plan budgétaire, puis je cite là, le rapport, une réduction du financement public au secteur privé n'entraînerait pas d'économie pour le gouvernement du Québec. Et ils estiment que les Québécois ont tout à gagner du maintien des deux réseaux parce que les deux réseaux exercent une concurrence entre eux. Puis si on parle de chiffres, là, le financement du réseau public, là, c'est 2022-23, 613,5 millions de dollars versus 13,2 milliards de dollars pour le réseau public. On parle du réseau de l'éducation ici. Alors, évidemment, les proportions sont différentes. Puis il y a tellement de préjugés, de mythes qui sont galvaudés par rapport au secteur privé. On sait bien que c'est les meilleurs élèves qui vont dans le secteur privé. Faux. Il y a des élèves en difficulté qui vont dans les écoles
Nathalie,
privées.
Là, Nathalie, il y a des stands, là.
Oui.
Peut-être qu'il y a certaines écoles privées. Je pense qu'il y en a, combien, 12 ou 16 pour des enfants en difficulté.
Oui.
Mais moi, je fais le magasinage des écoles publiques, là, OK?
Oui.
Je suis allé au Collège de Montréal, à l'École Notre-Dame, au Mont-Saint-Louis, au Collège Ville-Marie. Sais-tu combien de diversité culturelle et raciale j'ai vu dans les rangées? Sais-tu combien de personnes j'ai vu arriver? Bon, premièrement, diversité, zéro, OK? Il y en a peut-être quelque part, mais moi, j'en ai pas vu. Point un. Puis deux, tu vois les parents arriver, là. Tu les vois comment ils sont habillés, les coupes de cheveux. Tu vois la file d'attente, ils sont là, ils sont devant toi, là. c'est les privilégiés de Montréal. Et d'ailleurs, une statistique qui le confirme, 70 % des parents qui envoient leurs enfants à l'école privée gagnent plus de 100 000 $.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, Luc, la réalité est un petit peu plus nuancée que celle-là. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de bourse, par exemple, qui sont offerts aux familles qui sont moins nanties, qui ont plus de difficultés. On s'entend. Ça demeure une exception, toute chose étant relative. Mais moi, ce que je déplore, c'est que dans le fond, on veut toujours niveler par le bas lorsqu'il s'agit du débat entre école privée et école publique. Parce que là où je te rejoins, c'est l'école publique manque cruellement de moyens dans certains quartiers, dans certaines régions. Il faudrait effectivement donner un coup de barre. Évidemment, la pénurie des enseignants, là, c'est la cerise sur le sundae ces temps-ci. Mais les moyens, là, les équipements, enfin bref, mais... Je pense qu'on occulte la vraie question qui est celle, effectivement, d'un meilleur financement pour l'école publique en radotant sur le fait que le privé devrait disparaître de notre réseau de l'éducation.
Mais il ne s'agit pas de faire disparaître
le privé.
C'est pas la seule
province qui le fait au privé. Non, c'est ça. Mais
il ne s'agit pas de faire disparaître le privé. Dans la proposition de Québec solidaire, là, c'est de dire qu'il faut que dorénavant, vous donniez accès aux enfants qui, dans le quartier, qui sont incapables de payer. C'est le financement qui va s'en changer. Ce ne sera plus un financement par les parents, ça va être un financement entièrement par l'État. Donc, les écoles vont rester. Là. Les collèges, les bâtisses ne vont pas être démolies. Mais, puis les administrations vont rester en place. Le financement qui va changer, puis ils vont être obligés d'accepter plus de monde. Donc, comme ils vont accepter plus de monde, ils vont être obligés de refuser des gens qui viennent de loin. Mais, la base, c'est que le principe de l'écrémage, tu es d'accord qu'il y a un principe d'écrémage?
Bien, c'est-à-dire de moins en moins, parce qu'au fil des années, les écoles privées ont tenté d'ouvrir un peu plus grand leurs portes. Mais la question fondamentale...
Il y a comme deux types d'écoles privées, oui? Je pense. Là. Il y a l'école privée, là, appelons ça élite, là, Brébeuf,
Jean-Eudes. Là.
Bon. Oh, oui.
Là, il y a encore une sélection, puis on choisit.
Sélection,
là.
Tu dis?
Oui, parce qu'il y a un test d'admission qui est imposé aux élèves.
Moi, j'ai vu d'autres écoles privées, je te dis pas qu'ils prenaient tout le monde, mais la classe moyenne des gens là, qui se disaient, moi, je fais le choix.
Il y en a quelques-unes, oui. Là, le genre.
Il y a moins de sélection, pas mal, qu'il y a 10 ans.
Mais quelques-unes.
Mais combien de parents se serrent la ceinture, justement, pour envoyer leurs enfants à l'école privée? Mais fondamentalement, pourquoi tu envoies ton enfant à l'école privée?
Non, mais premièrement, moi, je veux l'envoyer à l'école publique. Là. Mon objectif, c'est d'envoyer à l'école publique.
Je pensais que tu disais privée.
Non, mais je visite les écoles privées, pareil, mais j'espère que trouver une école publique qui. Va avoir ce niveau d'émulation-là. Puis il y en a, il y a des programmes dans les écoles publiques.
Mais il y a d'excellentes écoles publiques.
Avec des améliorations notables. L'école Jeanne-Mance, dans le plateau Mont-Royal, à un moment donné, les parents se sont dit, ça fera. Puis nous autres, on ne va pas envoyer nos enfants à 5 000 $ plus les frais, plus la tablette, plus le costume, plus les sorties, plus les voyages. Et puis si jamais il est dans un sport élite, c'est un autre 5 000 $. Fait que des écoles publiques, ça coûte 13, 14, 15. Là. Donc, il y en a que c'est 5. Toujours est-il que privé. Donc, les parents ont dit ça va faire. Puis, deuxièmement, l'école est à côté de chez nous, ça serait tellement pratique. Fait que la seule raison pour laquelle Jeanne-Mance n'était pas bonne il y a quelques années, bien qu'elle s'améliorait, c'est que personne n'envoyait son enfant là. Et là, ils ont dit, si on l'envoie tout en gang, notre enfant, là, elle va s'améliorer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'école Jeanne-Mance, c'est vraiment en processus d'amélioration. C'est pas des moins bons professeurs, c'est pas des moins bonnes installations, c'est moins de parascolaires, moins d'implications, moins de camps. Hey, quand tu rentres à Jean-Eudes, là, j'avais fait la visite à Jean-Eudes, je suis tombé sur le cul. Je suis vraiment tombé sur le cul. Et tu rentres, t'as le local pour les échecs, robotique, laboratoire. Après ça, t'as ouverture sur le monde. Ils font 4 voyages par année. Après ça, t'es langue. Après ça, t'as art dramatique. Après ça, t'as danse. Hey! Ouais. Tout le monde va aller là. Tout le monde va aller là. Puis ça sauverait combien d'enfants? Parce qu'il y a combien d'enfants qui sont pas tellement bons dans le parcours scolaire, mais il opère en maudit au football, au basketball, à n'importe quoi, au ping-pong, au Mississippi, on s'en fout. En cuisine, tu sais, il y a des arts culinaires.
Le jeune qui vient de gagner le championnat mondial des moins de 18 ans aux échecs, il a commencé par une activité parascolaire.
Et voilà.
Oui, il a pogné son X, là, puis il est parti avec ça.
Ben c'est ça, c'est exactement ça. On reste à l'école pour ça. C'est pas parce que t'aimes le cours de chimie est-ce que tu t'attaches à l'école.
Je détestais la chimie.
Et ta tabourette.
Non, mais c'est un vieux débat. Ça fait combien d'années qu'on parle du privé en éducation? En fait, pour moi, le privé en éducation, c'est un peu comme le privé en santé. Ça rend service au réseau parce que ça force tout le monde, effectivement, à niveler par le haut. Mais en même temps, puis là, j'entends déjà des professeurs, des enseignants du réseau public public, oui, nous dire, ben voyons donc, nous, on a une belle école. Oui, il y a de très belles écoles qui existent. C'est absolument extraordinaire, il faut le dire, parce qu'on a tendance à dépeindre le réseau privé comme le réseau, ouais, écoute, parfait, puis le réseau public, c'est de la MERDE, alors que c'est pas ça du tout dans la réalité, mais clairement, vivement, un rehaussement des moyens pour le réseau public.
Nathalie, pour le ministère de l'Éducation.
Voilà.
Puis toi, tu vas où? À l'environnement?
Environnement, maison.
Non, c'est plate. Ministre des Transports. On va s'arrêter au retour. Justement, le ministre de l'Environnement, M. Charrette, dit que si on augmente les taxes sur l'essence, on va assister à un mouvement de gilets jaunes au Québec comme celui qu'on a vu en France.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, participait à un débat. Et il a dit, en reprenant la proposition des partis d'opposition de faire une surtaxe, là, je pense à Québec solidaire, sur les véhicules les plus polluants, les VUS, fourgonnettes, que ça pourrait créer une contestation, la création d'un mouvement de gilets jaunes à travers le Québec, comme celui qu'on a vu en France. Est-ce qu'il a raison? Nathalie.
Monsieur Charrette a eu un élan d'enthousiasme. Honnêtement, il pousse un peu trop fort sur le bouchon. Par contre, là où je lui donne raison, c'est que Québec solidaire se met beaucoup de monde à dos depuis le début de la campagne électorale. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir à quel point, depuis quelques jours, là, le chef de la CAQ tente de dépeindre QS comme le parti qui taxe les contribuables québécois. Une taxe n'attend pas l'autre. En rappelez-vous, la taxe sur la succession, la taxe sur la fortune. Aujourd'hui, une surtaxe sur les véhicules les plus polluants. Alors, effectivement, QS se présente comme un parti qui veut, et comme François Legault l'a dit, vous en prendre dans les poches plutôt que vous en remettre dans les poches. Moi, je trouve que c'est un peu fort poussé sur le bouchon là, de comparer les gilets jaunes à la situation du Québec. Parce que, de façon pragmatique, les Québécois se disent quoi? Ben, de toute façon, Québec solidaire ne prendra pas le pouvoir. Fait qu'ils peuvent bien en parler, ils peuvent bien le mettre dans leur programme, mais ça n'arrivera pas. Sauf que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on se penche, puis j'y reviendrai, là, sur la mesure, lorsqu'on creuse la mesure de Québec solidaire, là, il y a des trucs intéressants qui apparaissent, parce que les véhicules qui sont visés, c'est ceux qui émettent 210 grammes de CO2 et plus par kilomètre. Mais il y a les émissions de CO2, puis il y a l'indice de CO2. Puis là, c'est intéressant, j'ai fait un petit exercice ce matin. Là, j'ai consulté le guide des carburants. Là, ça relève de Ressources naturelles Canada. Par exemple, là, vous achetez, Edouard amateur de Mustang, vous autres, les gars, vous achetez une Mustang. Toi, tu réponds oui, mon Luc, là, Mustang GT, par exemple.
La GT, je voulais justement te dire.
Ben, oui, exactement.
Pas la classique. Là. Moi, c'est la GT.
La GT, là, est polluante. Mettons, tu achèterais une Mustang, ouais, GT, là, QS t'imposerait une surtaxe. Par contre, c'est dans les voitures avec un indice de CO2 dans les moins,
ah bon,
polluants. Fait que tu sais, tu peux émettre beaucoup de CO2, mais en même temps, pas être polluant.
Eh bien.
Fait que voilà, c'est intéressant, mais sur le plan politique, on est clairement dans une tentative de dépeindre son adversaire avec la sortie de Benoît Charrette.
Mais pourquoi il fait ça? Il est ministre de l'Environnement, le pauvre Yard. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de prendre le discours le plus, le moins environnemental possible? Tu sais, moi, je me rappelle que quand la CAQ a été élue, il n'y avait pas de programme environnemental, puis il n'y avait personne qui, dans le domaine d'environnement, qui voulait aller là. Fait qu'ils ont pris, ils ont dit à quelqu'un, bon, ben, qui va être ministre de l'Environnement? Bon, ça va être toi. Puis, monte sur le stage, on va t'acheter une liqueur, fais-toi-en pas. Mais là, mais t'es pas obligé quand même, à chaque fois, d'aller face au mouvement environnemental puis dire une énormité.
Il était dans un débat, lui.
Mais oui, je sais.
Puis
mais
le sens de la formule, des fois, en politique, ça punch, c'est bon. Non?
Oui, mais c'est, oui, parce que c'est,
mais donc, il y a un désaccord avec, ben, son affirmation.
Les gilets jaunes, tu sais, comparé aux gilets jaunes. Premièrement,
non, c'est un peu, je disais, c'est
ben
un...
Oui, t'as, oui, raison, là. Le salaire minimum en France, il est à 10 $. Donc, et le salaire moyen est beaucoup moins élevé. La TPS TVQ, ce qu'eux appellent la TVA, est à 20 %. Le loyer est plus élevé. Le chômage est plus élevé. Donc, il y a un bouillon de révolte qui résurgit à tous les 3-4 ans. On le sait, on l'a vu dans les banlieues parisiennes, etc. Et là, cette fois-ci, c'était une taxe sur l'essence qui s'ajoutait à toutes les autres taxes qui a fait péter la marmite. Mais dans les revendications des Gilets jaunes, ils exigeaient une taxe sur... ils exigeaient le retour de la taxe sur les grandes fortunes. Donc, c'est un mouvement de révolte en disant il y a du monde qui sont de plus en plus riches, nous autres on est de plus en plus pauvres. Est-ce que
au Québec,
ouais, ben, moi, au Québec, ça correspond moins qu'en Europe. Et si Benoît Charrette dit, ben, il faut faire comme ce que les Gilets jaunes ont. OK, les Gilets jaunes demandaient un impôt sur les grandes fortunes. Ce que demande aussi Québec solidaire. Fait qu'il était complètement dans le champ avec sa comparaison avec les Gilets jaunes. Mais moi, je pense aussi qu'il est dans le champ de ne pas voir. Bon, d'abord, de faire peur au monde des Gilets jaunes, ça m'a vraiment fâché. Je me suis dit, mon Dieu. Mais ensuite, la proposition de Québec solidaire, regardons-la pour ce qu'elle est. Il s'agit de taxer des véhicules neufs. Pas le véhicule que tu utilises, là. Pas celui dans lequel vous nous écoutez, madame, monsieur, en ce moment. Si vous achetez un nouveau véhicule, on va taxer le nouveau véhicule. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pousser les gens vers un autre type de véhicule. Et justement, il propose de subventionner un autre type de véhicule.
En l'occurrence, le véhicule électrique, oui, qui n'est pas très disponible actuellement.
Oui, hybride. C'est ça. Bon, correct. Comme tu dis, ils ne sont pas élus dans... Ouais.
Mais je vais te poser une question, moi, qui m'a... Tantôt, j'avais Gabriel Nadeau-Dubois en studio. Je comprends l'idée de taxer pour limiter les déplacements, OK, puis de pousser les gens vers le transport collectif. Je sais aussi qu'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, de travail, ont besoin d'un véhicule d'une certaine dimension. La communauté du Montréal métropolitain, depuis des années, là, de temps en temps, nous sort l'idée, puis la technologie va finir par le permettre, de taxer selon le kilométrage parcouru. Ce qui fait que, ou c'est une dépense d'entreprise parce qu'il faut que tu te déplaces, ou ça limite en quelque sorte, c'est un incitatif à ce que tu restes dans ton coin. Québec solidaire est contre ça. Ils veulent taxer le véhicule, mais pas les déplacements.
Mais pas les déplacements. Parce que, bon, ça, c'est une affaire compliquée. C'est un peu comme la taxe sur les voyages. Tu sais, si tu taxes les déplacements dans une société où tout le monde...
Non, mais des péages sur les autoroutes dans le monde.
Je sais. Ben, écoute, pourquoi les autoroutes sont meilleures en Europe qu'ici? C'est parce que... Puis aux États-Unis aussi.
Mais il y a plus de densité, il y a plus de volume aussi.
Il y a plus de volume, mais aussi, ils sont les taxes... Et tu payes un péage, là. Si tu vas aux États-Unis, tu vas le voir qu'il y a des péages sur les autoroutes, là.
Portugal, c'est pas un pays riche, puis il y a des péages.
Oui, mais Québec solidaire se refuse à cette idée-là parce que c'est une taxe qu'il appelle régressive. Donc, plus tu es pauvre, plus tu la payes. Parce que si tu payes 1,50$ pour ton péage et que tu fais 100 000 par année, évidemment que ça te coûte moins cher que si tu fais 15 000 par année. Donc, ils veulent pas de taxe régressive. Mais je pense que le programme de Québec solidaire est à peaufiner là-dessus. Là.
Mais je comprends parce que c'est drôlement compliqué. Là. T'imagines la bureaucratie rattachée à la gestion de toutes leurs mesures. Mais je disais, il commence à se mettre pas mal de monde à dos. Là. C'est la classe moyenne, entre autres. Puis les électeurs là, qui se sentent visés par une mesure comme celle-là. En passant, tous les propriétaires de camionnettes, là, Silverado, GMC, Ford 150 seraient visés par une mesure comme celle-là. Ben, ils vont où, les électeurs qui sont les électeurs moyens? Ils vont aller soit chez la CAQ, soit chez Éric Duhaime. Parce que tu parlais de révolte avec les Gilets jaunes. Les électeurs d'Éric Duhaime, qui ne sont pas tous en colère en passant, là, ce qu'ils expriment, c'est un ras-le-bol du système. Ce qu'ils veulent, c'est que le PCQ donne un coup de pied dans le système. Puis ils se disent,
oui, ça,
écoutez,
c'est vrai,
là,
ça existe.
On en a ras-le-pompon des maudites solutions qui n'arrivent jamais pour régler des problèmes qui font juste perdurer.
Bon, ça, c'est vrai, ça existe. C'est un mouvement. Il vaut 15 % dans la société en ce moment. Il vaut 15-16 %. Est-ce qu'il va augmenter plus? On ne sait pas. Mais il y a une autre chose qui existe.
Ben, il vaut 16. Il vaut 16 comme le Parti libéral. Il vaut 16 comme QS. Là,
bon, c'est ça. Ben, il vaut 16. Il y a un autre mouvement aussi qui existe. C'est de dire à des gens qui conduisent un Silverado, écoute-moi bien, là, ton prochain, change donc. Achète-en un autre. Prends pas ça. Ça pollue trop. Là, tu le sais maintenant. Avant, tu ne le savais pas. Là, tu le sais. Là, ça pollue trop. Ça blesse plus lors des accidents. Ça prend trop de place. C'est tellement difficile à garer dans une rue. Puis, quand tu te passes à ta blonde, elle l'aime pas. Fait qu'elle s'en achète un autre, un plus petit. Achète-en un autre.
Que de préjugés.
Vas-y pour un plus petit. Vas-y pour un plus petit.
Voyons.
Mais c'est parce que c'est pas toutes des cons.
Le monde serait simple avec toi.
Mais Nathalie, oui, c'est simple pour moi. Je vais te dire pourquoi c'est simple.
Des fois, tu peux. Des fois, tu ne peux pas.
OK, d'accord.
Si tu traînes ta fouille, tu peux bien essayer de trouver un camion électrique.
La mesure de Québec solidaire dit qu'il y a une exception pour les familles de 3 enfants et plus parce que tu peux pas peut-être asseoir 5 personnes plus l'équipement dans une voiture. Mais n'importe, la moyenne des Québécois peuvent utiliser une sedan 4 places, performante, hybride. La moyenne des Québécois peuvent utiliser ça. C'est ça le message. C'est possible. Arrêtez de nous parler, de dire que tout le monde doit rouler dans un gros véhicule. C'est pas vrai. Puis le gars qui roule dans un gros véhicule, je suis sûr, moi, que je peux en convaincre une couple d'y dire, écoute mon big, là, arrête.
C'est pas ce qu'on dit. Luc, c'est pas... Là, tu utilises un raccourci parce qu'on peut utiliser un plus gros véhicule, mais qui est moins polluant qu'un plus petit véhicule. Je t'ai fait ta démonstration tantôt de la Mustang GT, par exemple.
Si c'est moins polluant, tant mieux. Oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la moyenne des Québécois peuvent utiliser des véhicules moins polluants et que c'est possible de les orienter vers des véhicules moins polluants avec des taxes intelligentes, à condition de leur donner une alternative. Il ne faut pas que tu épingles dans un cul-de-sac. Il faut que tu dises, tu prends celui-là, tu payes plus cher. Tu prends celui-là, tu payes moins cher.
C'est terminé. Luc, tu devrais t'acheter la nouvelle Mustang.
La GT? Oui.
Non, la GES.
C'est 23.